Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Il vaut mieux en discuter au Parlement avec des représentants politiques, des partis politiques et des ministres plutôt que les garder cachés sous les tapis parce qu'un jour ou l'autre, ils vont de toute façon ressortir. Black Mirror, typiquement, c'est une série qui nous montre un futur qui est proche ou qui est déjà là. Maintenant, est-ce que je veux absolument être cité par quelqu'un de particulier? Il n'y a personne qui me vient maintenant à l'esprit, donc non, pas particulièrement. Bon, si c'est juste Fred Kolb, je me dis, bon, ce serait un peu dommage, mais pas par rapport à lui.
Mein Invité von heute ist ein Mann mit vielen Gesichtern und Aufgaben. Unter anderem ist ein Politikforscher, Medienforscher, Pop, den kreativen Kopf hat dem Lützebäuer Wahl-O-Mat smartwille.lu, aber mal ehrlich sind, ist das alles schon spitzt vom Eisbirsch. Wenn ich Raphael Kieske bei einer Party kennenlernen, da geht viel mir seinen Job folgendermaßen erklären.
Alors, si on se rencontrait à une fête au lieu de faire un podcast, généralement, j'ai pas beaucoup tendance à parler de moi-même. Je préfère poser des questions aux autres et s'ils me demandent ce que je fais, je dis de manière assez vague que je suis chercheur et enseignant à l'université. Et puis, parfois, ils s'arrêtent. Et parfois, les gens sont curieux et ils me demandent plus. Et c'est là que je suis assez embarrassé parce que je fais beaucoup trop de choses dans des domaines assez différents. Et alors, ça me met toujours un peu en difficulté. Et j'ai peur d'ennuyer les gens si je commence à dire tout ce que je fais.
Gut, dass ich schon einmal genug gefragt habe. Sonst wird heute die kürzesten Podcast-Episode an der Geschichte von Mein Element. Und ich kann nicht versprechen, der Raphael litt nicht, wenn ihr seht, dass er ganz viel Eisen am Forschungsfeuer hat. Ein großer Teil davon ist der Bereich E-Democracy, also die Vereinfachung von Informations-, Kommunikations- oder Transaktionsprozessen durch öffentliche Institutionen, aber beispielsweise den Bürger, und das durch Nutzen von moderner Technik. So, das ist so die fancy Erklärung. Ein bisschen mehr gehässig Remark ist, dass wir in Zukunft mit der E-Democracy nicht mehr an die Wahlkabine gehen, wir das Ganze über Insta-Stories machen. Wobei, das ist doch bestimmt alles nur mehr Fantasie. Oder nicht?
Non, ça c'est une la vision la plus disons c'est pas vraiment de l'e-democracy, ça ce que j'appellerais c'est d'exprimer de manière très simpliste des préférences oui non avec un smiley. L'e-democracy est plus ambitieuse. Elle cherche vraiment à renforcer l'information et l'esprit critique des gens à travers l'utilisation des nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est l'idée d'utiliser des nouvelles technologies, premièrement pour informer, donc comment mieux informer les citoyens, par exemple, avant des élections. Et c'est là qu'un exemple qu'on a développé, c'est la plateforme qui s'appelle SmartWählen, qui a été développée au Luxembourg à plusieurs reprises et qui maintenant est assez connue au Luxembourg aussi. Et voilà, ça c'est un exemple, à mon avis, intéressant de e-democracy parce que on sait très bien que avant les élections, la plupart des électeurs s'informent très peu, ont tendance à voter comme vote leur famille ou comme vote leur proche ou sur un ou deux enjeux. Mais rarement quelqu'un va voter en s'informant sur une trentaine d'enjeux. Et on sait aussi qu'au Luxembourg, comme il y a un système de vote très compliqué, c'est-à-dire qu'on peut voter ou bien pour toute une liste, ou bien pour des candidats d'une même liste, ou bien pour des candidats de différentes listes. L'électeur peut se retrouver avec des dizaines et dizaines de candidats sur lesquels faire un choix, et il ne connaît pas tous les candidats. Et là aussi, ce type de système permet de connaître en détail les positions de chaque candidat, et il nous aide à dire, voilà, ce candidat est plus proche des positions, et puis on peut même regarder question par question, où se situe le candidat. Voilà, à mon avis, une utilisation e-démocratique, si on veut, des nouvelles technologies. Et une autre utilisation, c'est de promouvoir l'interaction entre les citoyens, donc de promouvoir la délibération. Et là, il y a toute une série de plateformes qui sont là pour favoriser une bonne interaction entre les citoyens. Pas une interaction genre de RTL.lu où les gens s'engueulent et se traitent de tous les noms, mais un type d'interaction avec un modérateur où on essaie vraiment aux utilisateurs de faire un effort d'écouter ce que les autres ont à dire, de faire un effort de se justifier. Enfin, voilà, d'arriver à une forme de véritable délibération.
Also, ich weiß, wie dir es geht, aber das ganze E-Democracy-Thema, ich blicke da noch nicht wirklich dadurch. Also für mich klingt das immer noch so ein bisschen zu viel in der Zukunft. So etwas, was vielleicht 2060 adaptiert kann gehen. Aber wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, aus ich benutze mir das zu Lützburg schon ein paar Jahre. Und das aber ein richtig belebt otherwise, obwohl, und das muss wirklich so in die Internetseite, ein bisschen verstöpst und designtechnisch wirklich ausbaufähig ist.
Un autre exemple de e-democracy qui marche au Luxembourg, mais vraiment très très bien, c'est les pétitions en ligne de la Chambre des députés. Là, c'est énormément utilisé. Depuis qu'elles existent, elles n'ont pas arrêté d'avoir énormément de succès. Les médias en parlent tout le temps des pétitions en ligne. On a tout le temps des débats à la Chambre des députés autour des pétitions en ligne. Et c'est un instrument qui... ce que j'appelle, permet d'avoir une forme d'un sismographe de la société, de savoir un peu voilà, quelles sont les préoccupations qui sont présentes de la société en temps réel. Et aussi, c'est un instrument qui correspond un peu à crever des abcès dans la société. Donc, il peut y avoir des thématiques, comme des thématiques identitaires par rapport à la langue, etc., qui avant ne s'exprimaient pas, ou s'exprimer dans les bars en criant « Ohren, je sais pas quoi ». Et puis, elles n'avaient pas vraiment un endroit où s'exprimer de manière institutionnelle. Et les pétitions, typiquement, permettent à ces gens qui ont des opinions fortes de voir « Voilà, j'ai ces questions sensibles ». Et si elles reçoivent un écho dans la société, elles sont ensuite débattues au Parlement. Alors certains diraient « Ah, mais non, certains enjeux, il aurait été préférable de les laisser sous le tapis et de ne pas en parler publiquement. » À mon avis, non. Il vaut mieux en discuter publiquement. Il vaut mieux en discuter au Parlement avec des représentants politiques, des partis politiques et des ministres plutôt que les garder cachés sous les tapis parce qu'un jour ou l'autre, ils vont de toute façon ressortir. Autant vaut les faire ressortir, débattre et créer une délibération autour plutôt que de les maintenir cachés parce que les cacher ne va pas les faire disparaître. Donc voilà, instrument pétition en ligne, un instrument qui marche super bien à Luxembourg, en dépit d'un site, le site a été changé, en dépit d'un site qui n'est même pas, qui est extrêmement simpliste, je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut se dire, mais comment c'est possible qu'un site aussi rudimentaire ait un tel succès? Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas la qualité du design qui compte, ça compte bien sûr, mais du design tout seul n'apporte pas la participation. C'est surtout de voir est-ce qu'on a développé un instrument qui répond à un besoin dans la société. Et là, je crois que deux exemples très forts, c'est les pétitions en ligne et ces smart villains. Là, c'est vraiment deux instruments qui répondent à un besoin d'information ou d'engagement dans la société.
Die können Streaming-Zuschauer, die stecken sich gerade vielleicht beim Verbannen von Internet und Politik. Moment, das kenne ich doch von diesem Film. An der Netflix-Serie Black Mirror geht es nämlich um genau das. Verbindung zwischen Technologie, Daten und München. Und das geht nicht selten schief aus. Wobei, so eine Dystopie wie Black Mirror, ich meine, das kann ja nicht Realität gehen. Das ist unmöglich.
Non, c'est Black Mirror, typiquement, c'est une série qui nous montre un futur qui est proche ou qui est déjà là. C'est juste qu'elle le met en évidence, ce futur qui est proche. Et est-ce que tout est négatif avec l'utilisation des nouvelles technologies dans nos sociétés? Non, parce qu'on voit qu'il y a quand même des utilisations intéressantes pour rester ensemble, pour donner de la visibilité à des personnes qui avant n'en avaient pas de visibilité, des minorités, pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est la musique, le partage de la musique. Donc il y a des choses, plein de choses qui sont incroyables et fascinantes dans le sens positif. Mais en même temps, on le sait tous, il y a tous les côtés négatifs. Donc la colonisation des mondes digitaux par des intérêts commerciaux, le risque de profilage politique qui se développe de plus en plus, le contrôle que des régimes autoritaires ont sur les médias sociaux. Donc voilà, il y a ces deux facettes de cette réalité virtuelle qui sont très fortes, aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Mais moi, ma peur initiale, c'est que justement, comme en restant dans l'esprit de Black Mirror, de l'intelligence artificielle, c'est que voilà, on aura tendance de vivre de plus en plus dans ce monde virtuel et qu'on se détache de l'essentiel, donc des rapports humains, qu'on se détache de la nature. Donc ça, c'était vraiment ça mon inspiration initiale, et je crois que je suis encore assez fidèle à cette crainte. Cette crainte que j'avais il y a longtemps, elle est toujours présente et peut-être encore plus forte aujourd'hui quand on voit que la plupart des gens passent leur temps devant leur téléphone portable et que donc ce monde virtuel, on le porte avec nous partout, n'importe quand, et que il ne va même pas faire... Et ce monde virtuel, qu'est-ce qu'il veut ? C'est prendre nos données, à comprendre quel est notre comportement pour puis nous vendre de la publicité. Et c'est tellement efficace que c'est nous-mêmes qui transportons partout notre téléphone, qui expliquons par où on se déplace. Et c'est nous-mêmes qui, volontairement, à travers Facebook, les médias sociaux, donnons toutes les informations possibles et imaginables pour être profilés. Donc, c'est une conséquence assez terrible. Et dans les rapports sociaux, on voit de plus en plus des gens qui se rencontrent à travers ce monde virtuel, à travers des sites de rencontres. Voilà, donc ce qui est bien, c'est dans l'air du temps, on ne peut pas aller contre. Mais ce qui présente aussi ses limites, parce que des gens que je connais, moi je ne le fais plus parce que je suis en couple, mais des gens que je connais qui le font, ils disent « oui, bon, c'est toujours les mêmes personnes au Luxembourg qu'on rencontre ». C'est marrant au début, mais après un peu, ça devient lassant. Donc voilà.
Politik und Medien begleiten der Raphael seinen beruflichen Alltag. Aber wie ist es dann eigentlich am Privaten? Sitzt ihr noch, wie wir alle gut, ab und zu bei einer Terrasse, gut gegrillt, gut ein bisschen kalte Wein rausgeschaut, im Hintergrund läuft ein Beachbar-Playlist und Kollegen schnüssen einfach drauf los. Bis zu dem Moment, wo Polizisten am Freundeskreis dann die Story vom mega unfaire Protokoll gezielt kriegen oder Lehrpersonal von der ganz fragwürdigen Edukationsmethode, die Architekten, Doktoranden oder Leute aus dem Handwerk sich ein Kering sagt, ganz sehr just angucken sollen und wir alle denken, puh, wir hätten einfach für 5 Minuten heimgehen. Ist das beim Raphael auch so? Ist hin für seine Freunde und Kollegen der Magnet für politische Gespräche?
Est-ce que je parle beaucoup de politique? Pas tellement, en fin de compte. Mes filles, elles sont pas vraiment intéressées à la politique. Elles ont 9 et 11 ans. Elles commencent à s'y intéresser. Et je suis étonné à quel point... En fait, j'ai étonné de voir à quel point elles s'y intéressent. Elles regardent le soir l'émission Logo.
Donnerstagabend, ich bin Tim. Das ist Logo. Und das Logo-Team hat diese Themen hier heute für euch vorbereitet.
Émission d'information allemande et elle me parle de Trump, elle me parle de Joe Biden, elle me parle de la guerre en Ukraine. Je me dis, ouais, c'est fou comment... Moi, à cet âge-là, je m'intéressais mais absolument rien, je ne savais rien de rien. Et elle s'intéresse beaucoup à la politique. Je suis curieux de savoir comment ça se fait qu'il y a cet intérêt pour la politique. Et elle me parle de Mme Pfeiffer, elle me parle de M. Bettel et elle me disait... Tu connais Bettel? Je dis oui, je connais Bettel. Ah, elles sont admiratives. Oh, tu connais Bettel? Oui, mais j'ai dit, on est à Luxembourg ici. Hein. Tout le monde connaît Xavier, ou quasiment tout le monde l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais jeune. Luxembourg, c'est une autre réalité. C'est pas comme connaître Obama. Pas que je dise que Bettel est moins qu'Obama, mais c'est qu'on est dans une petite société. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, pour revenir à la question, est-ce que je parle de politique? Oui, parfois avec les amis, mais je vais pas dire que quand je rentre à la maison, on parle de politique. On est tellement crevé qu'on préfère regarder peut-être Netflix que parler de politique.
In seiner Funktion als Medienforscher ist Raphael in einem Projekt beteiligt, den die verschiedenen Medienlandschaften aus der EU mal nicht vergleicht und ihre Entwicklung verfolgt. Und da muss ich sagen, sie mir zu Lützeburg in einer ganz speziellen Situation. Schon immer, hun ist regelmäßig durch Programmer gesappt und hat mich ein bisschen an die Deutsche Offer verliebt. Die einen schauen, was dem Sport, die anderen aus Nachrichten, aber hat immer noch ganz viele Sender, die Kabels weiß oder ganz viel dazwischen. Es hat eben die Sender, die ihn immer rumbesicht, auf verschiedene die Kategorien schon mal ausgeschlossen. Zu Lützburg ist das auch nicht. Da gibt es einen ganz großen TV-Sender, einen ganz großen Radiosender und eine ganz große Internetseite und die leben alle gut unter deinem Dach. Wie schätzt der Raphael die Situation an? Und mir zu Lützburg das Problem von einem Monopol und allgemein, was dort sich an der letzten Lützburger Medien macht?
Oui, ben bien sûr, on a quasiment un monopole dans l'audiovisuel qui est, vous n'avez pas fait le nom, c'est RTL. Évidemment, c'est RTL qui est un média commercial et qui est la seule offre audiovisuelle qu'on a au Luxembourg, ce qui rend le cas luxembourgeois assez unique du point de vue de la télévision, parce que c'est un média privé avec, et c'est ça sa particularité, particularité des missions d'intérêt public. Donc ils ont ces deux éléments, mais c'est pas à proprement parler ça peut pas être un service public par définition, parce qu'un service public ne devrait pas avoir des intérêts commerciaux, bien que RTL peut faire des bonnes missions de service public. L'argument pour lequel le Luxembourg en a pas plus, c'est que il n'y a pas l'espace pour plus de médias audiovisuels et que ça représente des coûts qui sont élevés et que aussi les gains commerciaux qu'on peut avoir si on développait sont très limités parce que le marché est limité en sachant que le public luxembourgeois est composé de 50% d'étrangers, RTL est purement luxembourgeois et que les habitants luxembourgeois après consomment aussi ADR, ZDF, la télé allemande ou bien la télé française ou bien certains même la télé anglaise. Donc, bien que ce soit un monopole luxembourgeois, lui-même doit faire face à une grande compétition internationale. Par contre, si on regarde l'offre des journaux, à la fois en ligne et offline, quoi, traditionnel. Là, il y a quand même une grande variété d'offres d'informations, même très élevée pour un petit pays comme le Luxembourg, avec quelques nouveautés qui sont très intéressantes. Mais déjà, c'est qu'il y a un passage de plus en plus en ligne, comme on voit le journal est passé en ligne et essaie de changer de ligne éditoriale aussi, donc essaie de changer de ligne éditoriale. On a des journaux d'investigation qui ont beaucoup de succès, comme Reporter.lu, et ça, c'est une grande nouveauté à Luxembourg. C'est-à-dire qu'on a quand même, et ça, c'est assez positif, des médias critiques, indépendants, de plus en plus présents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus un journaliste d'investigation qui est en train de se développer au Luxembourg, de telle sorte que, surtout à travers Reporter, mais aussi la radio 100.7, les journaux cherchent de plus en plus à trouver leur place de manière originale. Donc, il y a une transformation vraiment du paysage médiatique au Luxembourg, aussi avec la fin de Saint-Paul par rapport au Vought. Et les médias sont politiquement de plus en plus indépendants de ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est une grande transformation. Avant, on avait vraiment, si on veut, des médias soumis au parti. Ça, c'est quelque chose de positif. Par contre, on peut dire peut-être qu'il y a de plus en plus une influence commerciale par rapport aux médias. Parce que les journaux ont tendance à gagner de moins en moins d'argent à travers la publicité. Il y aurait, et ça c'est à vérifier empiriquement, une influence quand même de plus en plus importante qui viendrait de la publicité sur les journaux. Bon, ça c'est ça qu'on a que mon collègue a constaté aussi en faisant des interviews auprès des journalistes. Donc que l'autonomie politique est de plus en plus forte et que l'autonomie par rapport aux intérêts commerciaux est mise en danger au Luxembourg.
Wenn ihr so viel publiziert wie der Raphael, dann geht ihr natürlich auch gerne mal zitiert. am Idealfall von anderen bekannten Forscherinnen oder Forscher, wie wir noch einst an Situationen oder von Leuten, wo ihnen nicht gänger werden. Zum Beispiel am Wikipedia-Artikel von Fred Kolb. Du geht nämlich dem Raphael seine Abschätzung zum W2050 als Quell zitiert. Aber wie geht ihr nochmal da um, wenn ihr ob einmal in einem nicht wissenschaftlichen Kontext zitiert geht? Und von wem ging der Raphael eigentlich mal eigentlich gern zitiert gehen?
On est cité par différents auteurs, par différents responsables politiques de toutes les tendances. Voilà, donc moi je sais que il y a des gens de D-Link qui m'ont cité, des gens plus de centre, de gens de plus de la droite, donc ça me va très bien. Ah bah, après maintenant si je suis cité que par un parti politique, je vais commencer à me poser des questions. Mais si j'ai des citations qui vont dans différents sens, ça me dérange pas du tout, justement, parce que je suis content de développer des arguments en dehors de toute idéologie politique, quoi. Donc parfois je peux développer des arguments qui l'adhèrent dira, mais ça c'est un argument qui nous convient, et d'autres fois c'est des arguments qui conviennent à D-Link. Ça tendrait à montrer l'indépendance de notre travail politique. De même que pour un instrument comme SmartWheel, on n'en sait pas à l'avance quelle question va favoriser quel parti. Parce qu'on ne sait pas comment les citoyens vont se positionner par rapport à ces questions. Donc on essaie de faire une analyse qui est aussi neutre et approfondie que possible. Et après, on ne peut pas prévoir l'utilisation qui sera faite de notre analyse.
Okay. Mais trotzdem, ich bin froh, wenn du kennst, von irgendeiner Person auf der Welt, egal auf welchem Milieu, also das kann nur am Sport sein, das kann Schauspieler, Politik, wenn du an irgendeinem Wikipedia-Artikel kennst, erwähnt gehen von einer Person, von wem wäre das?
Si je pouvais être cité par une personne sur Wikipedia, bah, ça déjà, j'ai déjà eu la citation que je voulais au tout début de ma carrière. J'avais été, un de mes travaux avait été cité par Habermas, et pour moi, c'était déjà bien, quoi. C'était le premier article sérieux que j'avais publié dans une revue avait été cité par Habermas. Au début, je pensais que c'était une blague, et c'est les hasards des choses, et donc déjà, ça me suffisait. J'aurais pu arrêter ma carrière à ce moment-là, à 25-26 ans, donc c'était déjà bien. Maintenant, est-ce que je veux absolument être cité par quelqu'un de particulier, il y a personne qui me vient maintenant à l'esprit, donc non, pas particulièrement. Bon, si c'est juste Fred Kolb, je me dis, bon, ce serait un peu dommage, mais pas par rapport à lui. Donc non, mais ouais, dans le monde académique, ce qui compte, c'est surtout les citations académiques qui comptent. Voilà dans quelle mesure votre travail a été cité par d'autres auteurs.
Okay. Pour moi, ce serait quelqu'un comme Michael Jordan.
Voilà, c'est cool aussi, quoi. Je pensais aussi, ce type...
Michael Jordan dit, oui, Max avait une grande influence.
Voilà, ça c'est bien aussi. Moi, il n'y a personne comme ça qui me viendrait à l'esprit. Je ne suis pas un groupie, voilà. Je ne suis pas tellement groupie que je m'en fous. Je n'ai pas d'admiration. Je ne suis pas le genre de personne qui porte une admiration particulière pour quelqu'un. Voilà.
Auch nie gehabt.
Ah oui, bon, oui, quand j'étais plus jeune, oui, j'aimais bien les Cure ou quelque chose, voilà, ce type de musique. Mais sans plus, non, ouais.
Ok.
C'est bizarre?
Nee, gut nicht. Also, die Menschen, die natürlich immer gucken, sich mal an uns vergleichen. Lo nicht, mein Opa hat mir großen Auto, ich will noch mir großen Auto holen. Mit die vielleicht so ein paar mal 28 Jahre gucken schloh, ob Person XY die dann das schon erreicht, das rein theoretisch möglich, ich will das auch gerne haben. Und das irgendwie als eine Art Motivation.
Moi, je peux dire deux choses marrantes. Enfin, quand j'étais petit, je regardais avec beaucoup d'angoisse les gens qui avaient beaucoup de travail. Une fois, je me souviens, j'avais pris l'avion avec ma mère et je voyais un monsieur qui travaillait sur plein de dossiers, qui était tout le temps occupé. J'avais dit à ma mère, oh, le pauvre monsieur, là, il travaille comme un dingue, ça doit être très difficile, ça. Et maintenant, je vois qu'aujourd'hui, je suis ce monsieur parce que j'ai trop de travail, quoi. Et je suis en train d'atteindre ce que j'aurais jamais voulu atteindre, c'est-à-dire d'avoir trop d'engagement en même temps. Mais bon, c'est une phase de la vie. Mais je pense, oui, ce côté, voir un peu l'autre, ressembler à quelqu'un d'autre, avoir... Ça, c'est plus dans l'adolescence que j'avais ça. Et si on rentre un peu dans des parcours de vie un peu personnels, moi, j'étais à l'école française, ici, et j'étais un peu italien aussi, parce que ma mère est italienne. Alors, il y avait les jeunes de l'école européenne qui étaient toujours habillés très à la mode. C'était la mode, soi-disant, des paninari. Donc, ils mettaient un certain type de veste, ils mettaient les chaussures Timberland, ils mettaient la ceinture El Charro. Et donc, pour nous, c'était un peu à l'époque, je parle des années 80, 90, les Italiens de l'école européenne, c'était un peu les idoles, le mythe auquel on voulait ressembler. Maintenant, avec le temps, c'est évidemment ridicule, quoi, mais il y avait ces effets de mode, mais je pense que c'est surtout voilà, plus pendant l'adolescence.
Raphaël hat vier kurz geschwärzt. Smartwielen.lu. Eine Website, die nicht nur von Echtwählern soll genutzt gehen, mehr dem ganzen Land helfen soll, Informationen zu Parteien und Kandidatinnen zu kreieren. Wenn dir Smartwählen.lu noch nie soll benutzt tun, weil der entweder Echtwähler sieht oder einfach nichts davon wusst, dann könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie ihr Frohbau, den ihr dann ausfüllt und wenn ihr fertig seid, wird innerhalb von ein paar Sekunden geprüft, wer Kandidatinnen und Parteien am allermeisten mit ihren Antworten korrelieren. Auch für die nächste Sommerwahlen hast du ein Smartwähler geplant und Raphael, den hast zwar das Lützeburg Brain hat im Programm, mais erfund hat er das aber nicht.
Oui, non, c'est moi qui l'ai amené au Luxembourg, mais c'est pas moi qui ai inventé le système.
Okay.
Le système a été inventé aux Pays-Bas il y a longtemps, même avant l'existence d'Internet, avec des floppy disks. Et puis on a importé le système qui était développé en Suisse, qui s'appelle Smart Vote. Et nous, on l'a transformé en Smart Wählen aussi parce qu'on nous a piqué. Au début, ça s'appelait smartvote.lu, et puis ça a été piqué parce que j'avais oublié de renouveler, donc on a dû changer le nom. Et maintenant, ça s'appelle smartvielen.lu. Donc oui, c'est moi, avec mes collègues Patrick Dumont et aussi Philippe Poirier, qui avions emmené la première fois Smartvielen au Luxembourg. Et je dois dire que ça a eu tout de suite un très, très grand succès, et ça continue à avoir beaucoup de succès, ce qui démontre que ça répond vraiment à une demande de la population, parce que on peut développer des plateformes, il y a plein de plateformes qui sont développées, mais il y en a une sur 100 qui a du succès. Et ça, c'est le truc, c'est de voir quelle est la plateforme qui répond à une vraie demande de la société. Et je crois qu'avec Smartwählen, on a vraiment su trouver la plateforme qui répondait à un manque dans le besoin d'information que les électeurs luxembourgeois avaient.
Sicherlich, weil, also ich sehe echt, deutscher Kultur abgewusst, auch deutsche Medien. Mhm. Und da gibt es ja schon immer den Wahl-O-Mat.
Ja.
Gefühlt schon immer. Also natürlich gibt es ja noch irgendeinen Erfund. Und wie du uns macht, wie du endlich kommst, manchmal gibt es viele Leute, die sagen, boah, endlich. Mhm. Das wäre doch ganz zu Lützeburg machen. Aber gleichzeitig gibt es auch Kritiker, die sagen, puh, das ist ja cool, dass es das noch gibt, aber was geschieht eigentlich mit den Daten? Außer deine Kritik, die auch oft und ihr ruprucht gauf, weil das so aber ein bisschen sensibel, wenn ihr guckt, was dann alle Lützebäuer da so wild wählen.
Oui, oui, non, tout à fait. C'est une critique tout à fait justifiée qu'on a eue. Et nous, on garantit l'anonymité des données. Et de toute façon, on ne transfère pas les données à personne parce que c'est effectivement des données sensibles. D'où l'intérêt, à mon avis, que ce type d'instrument soit développé par des institutions comme l'université, comme le gouvernement. Nous, on l'a développé dernièrement avec le Center of Politische Bildung, parce que, voilà, on est des institutions crédibles et c'est clair que nous, on ne va jamais vendre ces données dans quelque forme que ce soit à des partis politiques ou aux Russes, par exemple, ou aux Chinois. Non, mais vous rigolez, mais ça, c'est des données, par exemple, que des régimes, même externes, seraient super intéressés parce qu'après, ils pourraient profiler les utilisateurs et pourraient envoyer des messages qui déstabilisent nos démocraties. Donc ça, c'est un peu leur objectif. Donc oui, je suis tout à fait conscient que ces données sont extrêmement sensibles et on a eu aussi des plaintes, des requêtes... la Commission de la protection des données est venue vers nous et voilà, nous, tout, on a toujours montré patte blanche par rapport à ça.
Vielen Dank für diesen Interview, merci für die Zeit Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und ich meine, als Nullauster und Nullausterinnen, denen wird gefallen.
Ja, tut mir ganz viel gefallen. Ich habe mich gefreut, dieses Interview zu machen. Und bis gleich gehen wir Bier trinken.
Ganz gerne.
Ein Bier, nicht ein Bier.
Daten, Demokratie, Politik und Medien, ich meine, selten wäre eine Episode so vielseitig wie das. Ich hoffe, ihr schon genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, teilt diesen Podcast und abonniert ihn. Mehr als die nächste Woche. Bis dann. Ciao.